D'autant que, alors je vais peut-être commencer par ça,
aborder le paradis sous un angle philosophique, c'est vraiment une gageure. Hein. C'est quelque chose. Alors, pourquoi ? Parce que, évidemment, on n'étudie pas le paradis à l'université en philosophie. On préfère étudier l'enfer de Sartre, hein, qui, comme vous le savez, c'est les autres, voilà. L'enfer, c'est les autres. Hein. Donc, vous êtes mon enfer ce soir. Sachez-le. Voilà. On n'étudie pas non plus le paradis en terminale. Hein, le paradis ne fait pas partie des notions au programme de terminale. Pas encore. Évidemment. Le paradis, c'est quand même une notion théologique, à proprement parler. Il est donc extrêmement difficile d'en parler sans faire de références bibliques, sans faire intervenir effectivement les Écritures. Donc, je préfère prévenir, mon regard ce soir sera un petit peu à la croisée des chemins, hein. Donc, ni strictement philosophique. Donc ce sera trop théologique pour le philosophe, trop philosophique pour le théologien. Bref, ce sera. Vous ne trouverez pas le paradis dans mon discours, sans doute. Hein? Voilà. Alors, ce préliminaire étant achevé, comment est-ce qu'on peut tout de même proposer une approche philosophique du paradis ? Alors peut-être en repartant des observations les plus communes, peut-être en examinant les attitudes les plus courantes. Et je crois que si on observe les attitudes humaines, on se rend compte assez vite finalement que l'homme est hanté par le paradis. Il est hanté par ce désir du ciel, hein, cette libido celli, si on voulait utiliser une expression latine. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on voit que les hommes n'arrêtent pas de parler du paradis, que ce désir du ciel est en quelque sorte logé au plus profond de notre être, hein, d'accord, au plus profond de notre nature. Alors, même en effet les incrédules, les athées de tous bords, en parlent. Hein, on peut mentionner Brassens... voudrait troquer un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, par exemple. Ceux qui sont des quadragénaires comme moi se souviennent peut-être de certains rappeurs, Coolio, hein, qui parlait du paradis des gangsters, Gangsta Paradise, hein, par exemple. On pourrait mentionner encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, le fait que certains athées vont trouver refuge au paradis latin à Paris. vous savez, ce lieu pour mâles dépressifs qui fuient l'enfer conjugal. N'est-ce pas ? Et même dans la société de consommation dans laquelle nous sommes, évidemment, il y a des traces de ce désir du ciel. Les publicitaires pour vous vendre de la lessive font référence à la Sainte Trinité. Vous savez, ils vous disent cette lessive, elle a trois pouvoirs en un. Ou elle est toute puissante. Évidemment. Hein. Donc on vous promet une rencontre avec Dieu si vous achetez effectivement le précieux objet, d'une certaine façon. Donc, la société de consommation elle-même est habitée par, on pourrait dire, cette référence paradisiaque, hein, d'une certaine façon. Mais évidemment, ce qu'elle vous propose, la société de consommation, c'est de satisfaire ce désir en vous appropriant les objets qu'elle vous vend. Hein, des objets qui vont imiter, évidemment, les propriétés de Dieu. On a un peu la même chose aussi avec l'industrie du divertissement. Dans l'industrie du divertissement, les stars remplacent les saints. Ouais. La Star Academy, hein, vous voyez, par exemple. Vous avez des chanteurs qui deviennent des idoles pour la jeunesse. Alors tout le monde pensera à Johnny Hallyday, n'est-ce pas ? où les fans de cinéma penseront à Johnny Depp, qui devient effectivement aussi une idole pour certains, ou certaines surtout. Lequel Johnny Depp, c'est assez amusant, a cru trouver son paradis chez une certaine Vanessa, comme vous le savez. J'ai pas pu m'en empêcher. Mais il s'est planté. C'est ça qui est intéressant aussi. Le destin de Johnny Depp est le destin de tous les époux. Alors non pas qu'on va tous divorcer, c'est pas ça que je veux dire, mais si vous cherchez le paradis uniquement dans votre femme, vous allez vous planter inévitablement. Il faudrait que votre femme soit absolument parfaite, absolument bonne. Nous, on a juste des bonnes femmes. Bon, bref. J'ai pas pu m'en empêcher, mais celle-là, je pense que je vais la payer longtemps. Ou encore, le culte de Madonna qui remplace le culte de la Madone. Et même, évidemment, l'industrie du tourisme vous promet de trouver le paradis. Aux Canaries, hein, par exemple. Je le dis parce que j'y étais la semaine dernière. Et la contemplation de Dieu, non, c'était pas trop le truc là-bas. Bref, alors plus sérieusement, même si c'est très sérieux ce que je viens de dire, mine de rien, on peut repérer aussi ce désir du ciel dans des formules très ordinaires, des formules de politesse. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, n'est-ce pas, vous lui souhaitez un jour rempli de béatitude. Ni plus ni moins. Quand je dis « salut », je te souhaite d'être sauvé. C'est quand même pas rien. Donc au quotidien, on n'arrête pas effectivement de se référer au paradis. Que nous soyons croyants, pratiquants ou athées revendiqués, ça revient sans arrêt. D'accord ? Donc le philosophe Emmanuel Lévinas, pour ceux qui connaissent, disait que toutes ces petites expressions par lesquelles on se salue, justement, ce sont des bénédictions par lesquelles nous accueillons la fragilité de l'autre et nous lui souhaitons en même temps d'être restauré dans son humanité. Hein ? Vous voyez, deux aspects, en fait. J'accueille ta vulnérabilité et puis je te souhaite, évidemment, de restaurer ton humanité complètement. Ok ? Donc, tous ces exemples, j'en suis qu'à mon introduction, là, j'en prévois toujours trop, tous ces exemples semblent valider finalement l'idée du philosophe Blaise Pascal, hein, le philosophe du XVIIe siècle, hein, qui disait « Tous les hommes désirent être heureux, je cite, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne sans la foi n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. » Le désir de béatitude, c'est ce qui est au fondement, effectivement, de toutes nos actions. Pourquoi est-ce qu'on va faire ceci, ceci, cela ? Si on remonte la chaîne des causes, c'est parce qu'on veut la béatitude. Mais sans la foi, dit Pascal, en même temps, vous n'allez pas la trouver. Alors, c'est ça qui est intéressant, et c'est là-dessus que je vais axer ma réflexion. C'est-à-dire qu'au fond, il y aurait un désir de paradis, une avidité de béatitude au cœur de chaque personne. Hein ? Mais, en même temps, l'homme se trompe tout le temps. Hein ? Parce qu'il cherche la béatitude sans s'en remettre à la foi, sans s'en remettre au coup de pouce de Dieu, quelque sorte. Et donc, du coup, on va se tromper d'objet. Hein. On va chercher le paradis, pour le dire clairement, là où on ne peut pas le trouver. Hein. Dans Johnny Depp, ou Johnny Hallyday, ou etc., etc. D'accord ? D'une certaine façon, il faut comprendre une chose selon Pascal, c'est que le désir de paradis, le désir de béatitude, c'est un désir, effectivement, de bonheur infini. C'est une soif de bien infini. Et à partir de là, on ne peut pas satisfaire ce désir-là simplement avec un objet limité, un objet fini. Et même une somme d'objets finis ne suffit pas pour faire un infini. Donc je peux avoir toute la collection complète, toute la discographie de Johnny Hallyday, ça n'apporte pas là, effectivement la béatitude. Hein. Je peux même collectionner, vous voyez, d'avoir dans ma bibliothèque tout Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, ça ne va pas faire ma béatitude non plus. Alors c'est déjà mieux que Johnny Hallyday sans doute, hein. Mais vous voyez, ça reste encore quelque chose de fini, de limité. D'accord ? Et donc, que dirait Pascal ? Ben, il nous dirait qu'au fond, il faut assumer ce désir d'infini jusqu'au bout, et justement, s'en remettre à Dieu. Hein ? S'en remettre à Dieu, justement. Si vous assumez votre désir de béatitude jusqu'au bout, eh bien, inévitablement, vous allez vous tourner vers le Christ. C'est simple comme bonjour. Mais il faut avoir, évidemment, pour y arriver, il faut avoir un peu d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut, il faut évidemment se dire qu'on ne va pas y arriver totalement par nous-mêmes. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être là où est le problème. C'est que la plupart des hommes sont bouffis d'orgueil, moi le premier, évidemment. Donc, je vous proposerai une réflexion à partir de là, en trois étapes. On retrouve la Sainte Trinité même, vous voyez l'aspect ternaire, trinitaire, même dans la dissertation de philo. Hein. Encore une image de Dieu. Même les philosophes communistes hein, font trois parties dans leur dissert. Hein. Bon. Donc. Oui, alors je ne prends pas souvent le micro, donc je vais peut-être en profiter pour balancer quelques missiles. Donc, première partie, je vais faire un petit tour d'horizon, justement, de toutes les parodies du paradis. Enfin, toutes, de quelques-unes. Hein. D'accord ? Tous les paradis artificiels, justement, dans lesquels l'homme, finalement, va échouer. Hein. D'accord ? Des paradis qui sont toujours à notre mesure. Dans un deuxième temps, j'essaierai de répondre à une objection classique de certains philosophes athées, Marx, Nietzsche, Freud, les grands penseurs du soupçon, qui nous questionnent sur l'origine de notre croyance au paradis. Après tout, pourquoi tu crois au paradis ? Est-ce que ce ne serait pas simplement parce que tu n'arrives pas à vivre toute la souffrance qu'il y a dans le monde ici-bas ? Est-ce que ce ne serait pas simplement un réconfort, une consolation, hein, par rapport à toute cette souffrance? Donc tous ces penseurs voient dans le paradis, si vous voulez, l'archétype des illusions humaines, de cette manière. Hein, okay, donc il faut leur répondre. Il faut leur répondre, c'est important, parce que c'est une objection qu'on entend tout le temps. Et puis dans un dernier temps, j'essaierai, bon, de manière philosophique, enfin philosophico-théologique, de donner quelques pistes pour comprendre comment aller au ciel, parce qu'après tout, c'est quand même ça le plus important. N'est-ce pas ? Alors, premier moment. Non, vous n'êtes pas d'accord. Si. Ah oui, bien sûr. Angèle. Alors, premier moment. Un petit tour d'horizon, donc des mauvaises conceptions du paradis. Des paradis artificiels. Des paradis qu'on se fait à notre mesure. Hein. Alors, on pourrait dire d'une certaine façon que les paradis artificiels imaginés par l'homme sont toujours, d'une certaine manière, des tentatives pour restaurer un paradis terrestre. Alors nous, en tant que chrétiens, on doit se dire que le paradis terrestre, il est perdu définitivement. Hein. Donc à chaque fois que quelqu'un nous promet le paradis terrestre, il se moque de nous, hein. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher, et puis en plus, ça risque d'entraîner des choses terribles, hein, évidemment. Donc, à chaque fois, effectivement, dans les paradis artificiels, on fait une confusion entre le monde terrestre et le monde céleste, entre la cité terrestre et la cité céleste, d'une certaine manière. Okay ? On confond les deux, d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Bon, bah, par exemple, un régime théocratique. Un régime théocratique, d'une certaine façon, vous voyez, rabat la cité céleste sur la cité terrestre. C'est-à-dire, on cherche à précipiter, en quelque sorte, l'avènement du paradis, hein, en forçant les conversions, hein, par exemple. Ce qui, évidemment, ne marche pas. Hein, ce qui, évidemment, ne marche pas. D'accord ? On essaie, en quelque sorte, de naturaliser le surnaturel. Bon. Ou encore, qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, c'est surtout à ça qu'on pense en général. Lorsqu'on fait de la cité terrestre une sorte d'absolu. Et on vous dit, la vie politique, la vie de l'État, il n'y a rien au-dessus. Bon, l'État c'est tout, ou c'est le tout. Qu'est-ce que ça donne ça ? Ça donne justement le totalitarisme sous ses différents visages, hein, d'accord ? Que ce soit le nazisme, le communisme, etc. D'accord ? Puisque, bah alors je cite un grand philosophe, Mussolini, il définissait le fascisme comme ça, il disait « Tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. » L'État décide de tout. Formidable, c'est un absolu qui encadre toute la vie. Et évidemment aussi la vie privée. C'est ça, c'est un marqueur de totalitarisme. Ça, quand l'État commence à s'occuper de votre vie privée, attention, attention. D'accord ? Il décide de tout, et il décide même, évidemment, qui est humain et qui ne l'est pas. Il n'y a rien au-dessus de l'État. Donc il n'y a même pas une nature de l'homme, vous voyez, qui excède les décisions de la loi politique. Hein ? Évidemment. Donc, vous pouvez dire, évidemment, que le juif n'est pas vraiment humain, et à partir de là, vous mettre à exterminer de manière industrielle toute une population. Hein ? D'accord ? Donc, le point commun de tous ces totalitarismes, au fond, c'est de refuser le paradis de Dieu, le vrai, pour promettre un paradis purement matériel. Un paradis purement matériel qui, en même temps, va mimer certaines propriétés, évidemment, du paradis céleste et certaines propriétés de Dieu, encore une fois. Hein, le diable, comme vous le savez, singe Dieu. Singe Dieu. Il limite, mais il déforme, évidemment. C'est toujours comme ça. Le mal, c'est toujours la défiguration du bien. Hein ? C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le mal. Donc, par exemple, l'unité des bienheureux auprès de Dieu, qu'est-ce que ça devient dans le régime totalitaire ? Ça devient l'uniformité. Tout le monde pareil, hein, mais l'uniformité imposée par la force et par la propagande. Vous devez tous penser la même chose. Vous voyez ? Le travestissement de l'unité, c'est l'uniformité imposée par la force et la propagande. Ou encore, le Christ nous invite à congédier le vieil homme et à faire des hommes nouveaux. Bon, ben ça, c'est un truc que le totalitarisme reprend. Le totalitarisme veut créer un homme nouveau. Hein, l'arien, le prolétaire émancipé, n'est-ce pas ? Ouais, ce sont des hommes nouveaux, des hommes régénérés. Mais régénérés, évidemment, par la terreur révolutionnaire. Donc on a l'impression, d'une certaine manière, que c'est comme si le totalitaire voulait faire la révolution sociale parce qu'il ne parvient pas à faire la révolution véritable, qui est la révolution du cœur. C'est parce que la révolution intérieure, il n'arrive pas à la faire, qu'il mise tout, en quelque sorte, sur la révolution sociale. Alors vous allez me dire, oui, bon, bah, ça on connaît, le totalitarisme au XXe siècle, on a retenu les leçons de l'histoire. Oui, bien sûr, ouais, tu parles. La chimère du paradis terrestre, on peut la retrouver sous des formes peut-être un peu plus subtiles. Aujourd'hui, par exemple, je pense que l'un des dangers, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, alors, si vous voyez ce que c'est, hein, c'est l'idée, mes anciens élèves le savent, parce que j'en ai parlé l'an dernier, c'est l'idée sur laquelle on va augmenter les capacités de l'homme en faisant fusionner le biologique avec le technologique. D'accord ? La technique va vous augmenter vos capacités intellectuelles, physiques, au point éventuellement de vous prémunir contre la mort. Hein. On va, c'est la phrase de Laurent Alexandre, vous savez, le médecin bien connu, enfin qui s'est fait connaître en France hein, par des livres comme Vaincre. Alors il dit, on va mettre à mort la mort. Formidable projet, par la technique. Par la technique, hein. On va télécharger votre conscience sur une puce, etc. Wow. La science-fiction réalisée. Bon. Donc là encore, c'est le rêve d'un homme nouveau. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle transhumanisme. L'homme actuel n'est qu'une transition vers autre chose, un homme amélioré. D'accord ? Donc c'est encore une forme de paradis terrestre, on pourrait dire. Un paradis technologique. Paradis technologique, alors c'est ça le paradoxe aussi qu'on peut remarquer. Bon. Il me reste déjà plus de 20 minutes. je vais essayer d'accélérer pour en arriver là où je voulais. Le paradoxe, c'est que, vous voyez, avec le transhumanisme, votre charité chrétienne risque de se transformer en cruauté. Parce que, vous voyez, imaginez qu'on ait effectivement toutes les technologies qui nous permettent de prolonger la vie indéfiniment. Ben, il n'y a plus de résurrection, du coup. Possible. Et donc vous allez dire aux gens, non, nous, on est chrétiens, donc on pense qu'il faut mourir pour pouvoir ressusciter. Hein ? Ça apparaîtra comme une forme de cruauté. Tout le paradoxe, n'est-ce pas ? Bon. Donc, être chrétien, ça suppose de rejeter radicalement tous ces espoirs de paradis terrestre, tous ces espoirs de perfection réalisée sur terre, d'égalité parfaite, de justice parfaite, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. J'aime bien cette phrase du poète Paul Claudel qui disait « Quand l'homme essaye d'imaginer le paradis sur terre, ça donne tout de suite un enfer très convenable. » moi, cette phrase me vaccine à tout jamais contre toutes les formes d'utopie politique. À chaque fois qu'on essaye de réaliser une utopie politique, ça se termine en dystopie. La contre-utopie, vous voyez. 1984 de George Orwell, pour ceux qui connaissent. Bon. Je soulignerai quand même, pour finir sur ce point, que le Christ lui-même nous avertit de ne pas tomber dans le panneau. On pourrait très bien interpréter les trois tentations auxquelles le Christ est soumis quand il va au désert. Comme ça, c'est-à-dire, au fond, le démon, qu'est-ce qu'il promet ? Qu'est-ce qu'il promet ? Le pain permanent. Vous voyez ? Plus de faim. Oh, formidable ! Il promet quoi ? Il promet plus d'inquiétude, hein, plus de souffrance. Et puis le pouvoir sur la terre. Hein, donc si tu es le Fils de Dieu, fais tout ça. Enfin, ça veut dire, en fond, oui, si tu veux m'adorer, moi, le diable, hein, fais tout ça. Hein, et le Christ refuse. Le Christ refuse. Vous voyez ? Donc non. Il faut arrêter, effectivement, avec cet espoir d'un paradis terrestre. Hein. Le diable, c'est le diable qui propose toujours un salut purement terrestre, justement pour nous éloigner du véritable paradis. Oui. paradis terrestre, c'est-à-dire un bonheur de bête repu dans une société parfaite. D'accord ? Le diable, effectivement, c'est, comme chacun sait, le malin, donc il sait utiliser notre désir de béatitude pour le détourner. Tu désires la béatitude, ben moi je t'en propose une, oui, mais c'est pas la bonne. Ok ? Donc ne tombons pas dans ce piège des paradis terrestres. Ne tombons pas non plus dans le piège inverse qui consisterait à séparer complètement la vie terrestre de la vie céleste. C'est un piège inverse et qu'on retrouve alors dans certaines hérésies, par exemple le gnosticisme. Le gnosticisme qui est une hérésie qui vous dit, grosso modo, le monde terrestre ici-bas est pourri, donc vous devez effectivement uniquement vous tourner vers le ciel. Vous désengager de ce monde ici-bas. D'accord ? Bon, alors c'est le piège inverse, évidemment, qu'on trouve parfois même chez certains chrétiens. Il y a un écrivain du 19e siècle qui s'appelle Monseigneur Gaume, qui est très à la mode chez certains tradis, qui a écrit un bouquin dont le titre c'est « La vie n'est pas la vie ». Sous-entendu, la vie terrestre, c'est pas la vraie vie. On mise tout sur le ciel, puis on se désengage de la vie ici-bas. Ben, faut pas le faire non plus. Pas le faire non plus, hein, évidemment. Alors, l'idée, ben, la vérité, elle est où ? Elle est, comme d'habitude, dans le Christ. Dans le Christ, les deux natures divines et humaines sont distinctes, mais unies. Eh bien, pour la cité terrestre et la cité céleste, pour le monde ici-bas et le monde au-delà, c'est pareil. Il faut les distinguer, mais en même temps, c'est pour les unir. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité entre les deux. Hein ? Ok ? Distinction, mais union. Continuité entre les deux. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que... l'espérance d'un paradis ben, impose des limites à la politique, par exemple. La politique ne peut pas tout faire. D'accord ? Et en même temps, cette espérance d'un paradis devrait, ben alors là, bon, on en est loin aujourd'hui, devrait rappeler un certain nombre d'exigences aux politiques aussi. D'accord ? Bon, alors ça, on en est loin. On en est loin. Bref, je termine sur ce premier point en disant que, au fond, on voit que croire au paradis, ça ne veut pas dire fuir le monde, mais ça veut dire vivre dans le monde différemment. Ce qu'on résume souvent dans les enseignements catéchétiques par quand on est chrétien, on est dans le monde sans être du monde. Vous voyez ? Donc c'est ça, effectivement, qu'il faut essayer de mettre en évidence. Alors, j'en arrive du coup à mon second point. Ça va me permettre de répondre à l'objection des grands penseurs athées. Donc les grands penseurs athées qui nous disent, au fond, si tu crois au paradis, c'est pour te consoler des misères de cette vie-là. Hein, d'accord ? Donc ça te donne une espérance... mais en fait c'est une illusion. Alors, la croyance au paradis apparaîtrait alors comme une sorte de désir de compensation par rapport aux souffrances qu'on subit. Ce serait une sorte de négation des souffrances, une négation de la négation, mais il n'y aurait rien de positif, au fond, dans le désir de paradis. Alors, je vous donne deux versions rapidement de cette critique des penseurs athées. La première, vous la connaissez sans doute, c'est une version sociale, celle de Marx. Karl Marx, hein, le grand critique du capitalisme du 19e siècle, qui est un très grand philosophe, hein, d'abord, hein, faut jamais l'oublier. Marx, qui évidemment est connu pour cette phrase, « La religion, c'est l'opium du peuple ». hein, l'opium du peuple. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là déjà que, bah, comme toute drogue, la religion efface les douleurs ou atténue les douleurs. C'est une sorte d'antalgique. Tu souffres, la religion, donc l'espoir du paradis, va évidemment atténuer ta souffrance. Parce qu'elle te promet un au-delà qui est bien meilleur que le monde ici-bas. L'au-delà comme monde de justice, où les bons sont récompensés, et les mauvais châtiés, etc. Et puis, il y a aussi, évidemment, un deuxième aspect chez Marx, c'est que, comme toute drogue, la religion aurait pour effet d'endormir, d'inhiber, en quelque sorte, notre capacité de réaction. Ce qui, dans la logique de Marx, veut dire quoi ? Veut dire que la religion va empêcher le peuple de se révolter contre ses oppresseurs. Donc, dans l'esprit de Marx, contre les bourgeois, qui exploitent les ouvriers, qui exploitent les prolétaires. D'accord ? Évidemment. Évidemment. Conséquence logique pour Marx, eh bien, dans une société sans classe, une société communiste, il n'y a plus besoin de religion. Si jamais la société était corrigée de toutes ces injustices, il n'y aurait plus besoin de religion, pense Marx. D'accord ? Autre version de cette critique athée, Nietzsche. Alors peut-être que Nietzsche est moins connu de vous, je ne sais pas. Un grand penseur du 19e siècle aussi, Nietzsche, qui a critiqué de manière féroce la morale et la religion chrétienne. Alors lui, Nietzsche disait qu'au fond, les espérances religieuses sont issues d'un ressentiment des faibles vis-à-vis des puissants. Alors, des faibles, il ne faut pas entendre ça au niveau, d'un point de vue social uniquement, mais même une faiblesse psychologique. Hein, c'est d'abord effectivement comme ça qu'il faut l'entendre. Pourquoi ? Parce que, disait-il, au fond, les faibles ne parviennent pas à s'affirmer dans l'existence et donc ils vont valoriser leur faiblesse. Valoriser leur faiblesse, dévaloriser la puissance, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça qu'ils vont en venir, effectivement, à promouvoir des valeurs morales qui vont dans leur sens. Vous voyez ? L'humilité, par exemple, etc., etc. Et donc, pour Nietzsche, la religion va finalement étouffer la vie, en valorisant effectivement la faiblesse. Pour résumer ça comme ça, il reproche à la religion, finalement, de faire de la misère humaine une forme de grandeur, de renverser la puissance de la vie. Alors, il faut bien reconnaître qu'on peut lire certaines choses en christianisme sous cet angle-là. Après tout, le christianisme, c'est la religion du Dieu souffrant, quand même. On est très loin des dieux du paganisme, qui sont extrêmement puissants, protecteurs de la cité, qui roulent des mécaniques. Non, le Christ, c'est pas ça. Bon. N'est-ce pas ? Il y a plein de paroles du Christ qu'on peut interpréter comme ça aussi. Quand le Christ dit « les premiers seront les derniers », et puis le simple fait que le Christ s'adresse beaucoup aux exclus, aux marginaux, on pourrait dire, ben voilà, c'est une valorisation de la faiblesse. Effectivement. Effectivement. Donc, Nietzsche dirait, au fond, le christianisme et le désir de béatitude, c'est quoi ? C'est une forme de nihilisme. Du nihilisme. Je sais à quoi ma femme est en train de penser. C'est pour ça que je... Une forme de nihilisme, c'est-à-dire une forme de négation du monde ici-bas. Vous voyez, c'est un rejet de ce monde ici-bas, une haine contre ce monde, et donc le paradis, c'est ce que Nietzsche appelle un arrière-monde. Un arrière-monde, un monde derrière le seul vrai monde, qui est le monde terrestre. D'accord. Mais un arrière-monde, évidemment, qu'on imagine, qu'on se construit. Hein ? Alors, il faut répondre à ces critiques. Il faut répondre à ces critiques. C'est important, je crois. Alors, je crois que c'est assez simple, finalement. Je ferai deux remarques pour répondre à ces critiques. Premièrement, l'espérance du paradis. Nietzsche nous dit qu'elle s'enracine dans une haine du monde. Je crois que c'est exactement le contraire. Elle s'enracine dans une joie. Dans une joie éprouvée face à tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de beau dans le monde. D'accord ? Si tu crois au paradis, c'est que tu vois qu'il y a du bon et du beau, et ça préfigure quelque chose d'encore mieux. Ça préfigure une bonté, une beauté surabondante. D'accord ? Un peu comme une femme enceinte. Le monde est un peu comme une femme enceinte. Regardez une femme enceinte, elle est belle, mais ça préfigure, vous voyez, elle préfigure quelque chose d'encore mieux. Encore mieux qu'elle. Elle ne va pas aimer juste... aussi quoi que si. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle est effectivement grosse d'une vie nouvelle. Hein ? D'accord ? Et bien quand on regarde le monde et qu'on voit tout ce qu'il y a de bon en lui, effectivement on se dit qu'il y a peut-être... que le monde est en gestation. Il est en gestation. Hein ? Et nous, ben, nous sommes effectivement en chemin, là aussi. Et ce monde, on espère qu'il va accoucher de quelque chose encore mieux. Le paradis. Le paradis. Hein ? Et par conséquent, si on est cohérent, ça veut dire que cette vie que nous vivons actuellement... elle nous donne comme un avant-goût du ciel. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a donc beaucoup plus de continuité entre cette vie que nous vivons et le paradis que ce que nous disent les penseurs que j'ai cités auparavant. D'accord ? Il y a une forme de continuité. Le paradis, ce n'est pas vraiment un autre monde, c'est plutôt l'horizon de ce monde. Et deuxième remarque, on ne doit jamais oublier que pour nous, il n'y a pas vraiment de séparation entre l'éternité et le monde terrestre, le monde temporel. Pourquoi ? Parce que l'éternité pour nous, c'est une vie éternelle, la vie de Dieu. Nous ne croyons pas en une éternité abstraite, nous croyons en l'éternel. Et l'éternel, justement, est la source de notre monde. D'accord ? S'il n'y a pas effectivement Dieu, nous ne sommes pas là. Dieu est celui sans lequel rien de ce qui est aujourd'hui n'existe. D'accord ? Il est la source derrière chaque chose présente dans le monde. Donc, si on assume ça jusqu'au bout, qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça signifie que l'éternel n'est certes ni dans un lieu, ni dans un temps précis, mais en fait, c'est parce qu'il est partout et toujours, en tant que source de ce monde. Vous voyez ? Je ne suis pas en train de dire qu'il est... Je suis pas en train de faire du panthéisme. Hein, D'accord ? Il est toujours et partout, il est dans tout espace et tout temps, parce qu'il est la source de tout. Hein ? Il est la source de tout. Ce qu'on voit dans Saint Luc, chapitre 17, il y a cette phrase merveilleuse, hein, le Christ dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous. » C'est-à-dire qu'il est déjà là, en fait, en partie. Le royaume des cieux, il est déjà là, en partie. Certaine manière. Et donc, désirer le paradis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire désirer rencontrer l'éternel. Je désire rencontrer Dieu. Et finalement, rencontrer l'éternel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire chercher dans cette vie sa présence, déjà. Dans ma vie, ici et maintenant, là, maintenant, tout de suite, il y a la présence de l'Éternel, déjà. Hein? Peut-être dans vos regards, par exemple. Votre regard n'est pas si infernal que le dit Sartre. C'est déjà une préfiguration de la relation, peut-être, que je pourrais avoir avec l'Éternel. Hein? Peut-être. Donc, troisième et dernier point, comme ça j'aurai un timing parfait, préfiguration du paradis. Quelques recommandations, enfin, bon, c'est peut-être un peu mal dit, mais on peut à partir de là comprendre peut-être un peu mieux ce qui nous permet d'aller au paradis, hein, de pénétrer dans le paradis. Bon, alors déjà, commencer par suivre les recommandations de l'Église, hein, quand même le rappeler. Mais j'ajouterais qu'il faut surtout comprendre le sens des recommandations de l'Église. Le sens de ces recommandations, c'est de nous faire, encore une fois, rencontrer l'Éternel. Mais, si vous avez bien compris ce que j'ai dit à l'instant, pour rencontrer l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Il nous faut simplement vivre vraiment, vivre pleinement ici et maintenant. Vivre à fond. À fond. Intensément. Alors attention, je précise tout de suite, pour ceux qui seraient un peu désagités. Donc. Vivre intensément, ça ne veut pas dire vivre à 100 à l'heure. Je règle mes comptes, là. Ça ne veut pas dire vivre à 100 à l'heure. Non, non, si vous vivez à 100 à l'heure, vous êtes juste dans la dispersion, dans l'agitation, vous êtes la proie du bougissement ambiant. Hein. Vous savez, c'est à la mode aujourd'hui, il faut bouger pour bouger. Il faut être en marche. Il y a même des partis politiques hein, qui exploitent le filon. On ne sait pas pour aller où, hein, certainement pas au paradis. Mais donc non, non, non. Il faut vivre intensément. Intensément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire, vivre intensément ? Ça veut dire restaurer la réalité, en quelque sorte, retrouver dans le réel la puissance de l'élan créateur de Dieu. C'est profond, ça. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dit. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et des fois, on s'écoute parler de temps en temps. Alors, je vais finir par quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, restaurer le réel, retrouver Dieu en toutes choses, etc. Bah, par exemple, des trucs tout bêtes. Restaurer la dimension contemplative de l'existence humaine. En commençant par se reposer le dimanche. Quand on peut. Bon, des fois, on a des impératifs. Hein, hein ? D'accord ? Non, mais c'est important. C'est vachement important. L'homme n'est pas qu'un producteur, n'est pas qu'un travailleur. Ça, c'est encore, effectivement... l'homme n'est pas qu'un homo economicus. Ça, c'est effectivement ce qu'on voit beaucoup à la fois dans le capitalisme et le communisme, finalement. Hein, cette dimension contemplative est complètement laissée de côté. D'accord ? Donc, nous sommes faits pour louer Dieu, nous sommes faits pour la prière. Et d'ailleurs... Si on a la chance d'aller au paradis, nous allons louer Dieu éternellement, dans une relation éternelle avec lui. Donc autant commencer dès maintenant, parce que, vous voyez, on s'y prépare, on a déjà un avant-goût du paradis hein, quand on va à la messe. Si, si. J'en vois qui doutent. Hein. Donc on louera Dieu éternellement. Hein. L'éternité, c'est long. Surtout à la fin, selon la boutade de Woody Allen. Deuxième exemple, alors, par exemple, ça veut dire restaurer le pauvre dans sa dignité de personne. Restaurer le pauvre dans sa dignité de personne, ça veut dire donner aux pauvres. Quand je donne aux pauvres, je restaure une relation avec lui, donc je lui permets de vivre à nouveau quelque chose qui est fondamental pour toute personne, c'est cette dimension relationnelle. Hein ? dans le fait même d'être une personne, il y a la dimension relationnelle. En Dieu lui-même. En Dieu lui-même, il y a effectivement trois personnes. Donc ça veut dire que si on parle d'une personne, il n'y a pas de personne sans relation. Bon. Ça peut être aussi, troisième exemple, restaurer la nature dans sa beauté. Hein ? Pour les lecteurs de Laudato si, vous apprécierez. Effectivement, le souci écologique peut s'entendre de cette manière-là. Et encore, quatrième exemple, restaurer la sexualité humaine dans sa profondeur de vie. Hein ? Bon, c'est aux mariés que je m'adresse, là. Évidemment, parce que, d'une certaine façon, ce que nous propose l'Église, c'est de vivre la sexualité intensément. Hein ? Si tu veux vivre la sexualité à fond, intensément, te donner intégralement à l'autre, eh ben, tu t'engages dans le mariage. Voilà. Vous voyez, il y aurait une très mauvaise façon de présenter tout ce qui concerne ces choses-là aux gens, ce serait de leur dire « il y a ça qui est permis, il y a ça qui est interdit ». Non, ben non, non, non. Non, non, l'idée c'est, tu veux vivre à fond ta dimension sexuée, eh ben vas-y. Vas-y, fais-le vraiment, intensément. Donc engage-toi dans le mariage. Ne te préserve pas, hein, ne cherche pas de préservation d'aucune sorte. Hein. Pour ça qu'il n'y a pas de contraception, par exemple. Voilà. Hein. D'accord ? Il faut donner toute la puissance de vie qu'on a en nous. Et comme ça, on sera heureux, on sera dans la joie. Parce que 9 mois plus tard, ça donnera peut-être... Hein, petit bambin qui crie, tout ça. Voilà. Donc, ben est-ce qu'on a le temps là, 5 minutes ? Ouais. Bon, je consulte les autorités. Oui, 5 minutes. Bon, bref, donc j'irai, pour faire simple, si on veut entrer dans la joie du Christ, son paradis, il faut vivre pleinement. C'était déjà l'injonction du Deutéronome. Célèbre texte du Deutéronome, chapitre 30, il nous dit « Choisis la vie ». Choisis la vie et tu iras au paradis. Hein ? D'accord ? Mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent, c'est-à-dire que si on veut vraiment aimer à fond, être disciple du Christ, eh bien, il faut aimer comme lui-même nous a aimés. C'est ça le commandement principal. Hein ? Aimez-vous comme je vous ai aimé, moi. C'est-à-dire qu'il faut accepter de s'exposer. On ne peut pas aimer pleinement en étant recroquevillé sur soi-même. Il faut accepter de s'exposer et donc éventuellement de souffrir. Éventuellement de souffrir. Il n'y a pas d'amour véritable sans acceptation de la croix. Pas de gloire possible pour nous sans acceptation de la croix. Il est d'ailleurs remarquable que je pense que c'est le Père Emmanuel qui a dû parler du Nouveau Testament. Le seul endroit dans le Nouveau Testament où il est fait mention explicitement du paradis, c'est quand le Christ est sur la croix avec les deux larrons. Hein ? D'accord ? C'est là qu'il dit effectivement au deuxième larron qui se convertit, « Tu seras au paradis avec moi. » C'est le seul endroit. Donc ça doit nous alerter. Vous voyez ? C'est pour nous dire qu'effectivement, si on veut entrer dans la joie de Dieu, si on veut entrer au paradis, si on veut appartenir à sa joie, si on veut être possédé par la joie de Dieu, c'est la seule possession qui n'est pas diabolique peut-être, eh bien, on doit porter sa croix avec lui, hein, d'une certaine manière. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'aurais peut-être pu encore développer, mais c'est déjà pas mal.
Il nous reste donc quelques minutes pour exprimer votre curiosité, votre intérêt, vos questions, vos réactions. N'hésitez pas.
Vos objections.
N'hésitez pas à vous manifester. Sinon, c'est moi qui pose mes questions. Je commence alors. Sur le transhumanisme,
oui.
J'ai compris que c'était un apport de la technique ou de la technologie ajouté, si on peut dire ainsi, à l'homme ou à l'humain pour lui donner des capacités supplémentaires. On peut le dire comme ça. Vous nous avez donné une magnifique conférence avec des lunettes qui ont favorisé votre vision et un micro qui vous a donné une puissance dans la voix. En quoi est-ce, ou plutôt n'est-ce pas, du transhumanisme ?
Bon alors, les lunettes n'augmentent pas mes capacités naturelles. Elles restaurent une capacité naturelle perdue. C'est très différent. Hein. Elles ne me donnent pas la vision d'un lynx. Non. Hein, elles font que l'œil myope ne l'est plus. Bon. C'est ça la différence, c'est qu'effectivement, effectivement, il y a une différence entre des techniques qui ne font que réparer ce qui était abîmé naturellement, et puis des techniques qui ajoutent effectivement des capacités supplémentaires. Hein, d'accord. Mais je peux pas me plaindre. Alors c'est ça le problème, c'est que faut comprendre que tout manque n'est pas forcément un mal. Le mal, c'est le manque d'un bien qui est dû à un être. Donc si je me plains que j'ai pas d'aile, que je ne peux pas voler, je me trompe. C'est un faux manque. Hein. C'est pas un mal. Parce que les ailes ne me sont pas dues. Et donc, évidemment, le transhumanisme joue sur cette ambiguïté aussi. Hein. Il fait croire que si vous n'êtes pas un super-héros, il vous manque plein de trucs. Ben non. C'est juste un homme. Alors évidemment, ça suppose d'accepter notre condition de mortel, notre finitude, etc. Pour ce qui est du micro, alors le micro, il va de soi que la technique... change, la technique n'est pas neutre. Parce que quand j'ai pas de micro, je suis obligé effectivement de m'engager un peu plus dans ma parole. Ma parole est beaucoup plus incarnée, alors que quand j'ai le micro, je peux être là comme ça. Je suis pas très habité par ce que je dis, mais tout le monde m'entend. Donc c'est vrai, le micro.
Le micro, c'est peut-être quand même l'Église qui est sonorisée et pas l'humain, finalement.
Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah ben voilà. Voilà la vie.
Bienvenue, Charles. À vous la parole pour encore une ou deux questions. N'hésitez pas, profitons-en.
Oui, les...
Intelligence artificielle.
Oui, l'intelligence artificielle. Moi, je connais pas bien l'intelligence artificielle, mais effectivement, les craintes qu'on a vis-à-vis de l'intelligence artificielle, oui, sont un peu les mêmes que pour le transhumanisme. Disons que l'intelligence artificielle, c'est une des composantes par lesquelles on espère, effectivement, augmenter l'humain. Hein ? Oui. Même si à l'heure actuelle, on n'a pas encore de puces implantées dans le cerveau qui nous permettraient de le faire. Mais... Ouais.
Oui, j'aurais une question encore sur le transhumanisme.
C'est bon.
Parce que je pense que c'est important. Bon, vous avez dit qu'effectivement, ça permet d'augmenter les capacités de l'homme.
Oui.
Mais le but final, ultime... c'est de faire que l'homme devienne immortel.
Oui.
Et en cela, en fait, on en revient à la première tentation, c'est-à-dire vous serez comme des dieux.
Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Oui.
C'est bien ça
oui.
Dont il s'agit.
Oui, c'est une promesse, oui, bien sûr. Une promesse de divinité assurée par les artifices de la technique. Oui. Complètement, oui. Non, c'est vrai. C'est pour ça que c'est diabolique. Non mais oui, pas pour nous en tout cas, même si...
Moi, j'ai une question. Vous avez mentionné Marx, Nietzsche, vous en avez donné des exemples. Vous avez mentionné aussi Freud et vous n'en avez pas parlé.
Oui.
Et moi, il y a un truc qui me trouble chez Freud. Enfin, je crois que c'est chez Freud, là, je ne suis pas sûr. Qui disait que finalement, notre désir du paradis et de tout ça, c'était qu'on se rappelait plus ou moins inconsciemment qu'on avait été bébé, à téter le sein de sa mère dans un cocon particulièrement bon, et puis qu'on venait chercher à retrouver ça.
Oui, alors, donc Freud, c'est l'inventeur de la psychanalyse. La psychanalyse, hein. Vous savez, donc, ce sont trois penseurs du 19e. C'est intéressant. Hein, c'est... Donc, chez Freud, il y a l'idée, effectivement, que l'homme est entièrement déterminé par des causes inconscientes. C'est son inconscient qui le détermine. Donc, en l'occurrence, effectivement... alors... Le paradis, effectivement, on pourrait voir ça en rapport avec la tétée, la fusion maternelle qui serait effectivement présente dans notre inconscient et qui reviendrait nous hanter. Hein. Ce serait un retour du refoulé. Hein. Freud appellerait ça comme ça, un retour du refoulé. En l'occurrence, il fait aussi surtout mention, si je me souviens bien, dans L'avenir d'une illusion, du désir d'un père protecteur. Hein. Lui, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la religion, c'est-à-dire que la relation au père a été intériorisée inconsciemment, et dans la religion, ce désir d'un père protecteur, cette figure paternelle, vous voyez, sécurisante, revient effectivement sous forme religieuse. Donc, pour le dire très clairement, Freud pense que la religion est une forme de névrose. C'est un retour de désir inconscient refoulé.
Bon. Alors je reviens là parce que vous avez bien, moi, réfuté Nietzsche
et Marx, mais oui. Je ne vois pas tellement votre réfutation de Freud.
C'est normal, je ne l'ai pas faite.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais, non, j'ai juste évoqué Freud, bon, parce que je voulais pas. Déjà, je n'ai pas eu le temps d'aller au bout de ce que je voulais. Ouais, Freud. Ça tient pas la route deux secondes, quoi. Enfin, franchement. Non, mais. Il y a tellement de choses, alors je sais pas par où commencer. Bon, déjà, est-ce qu'on est vraiment habité par un inconscient comme ça qui nous détermine? Déjà. Sur quoi Freud se base pour établir sa théorie? Est-ce qu'il se base sur des observations empiriques fiables? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que non. Bon. Ensuite, évidemment, il y a le déterminisme qui est associé, c'est-à-dire... Mais là, on s'éloigne complètement du sujet.
On commence à s'éloigner du sujet, mais à se rapprocher de l'heure de la messe.
D'accord. Non, mais il y a aussi le déterminisme, parce que... si vous suivez Freud jusqu'au bout, effectivement, l'homme n'est pas vraiment libre de ses choix. Hein. On est déterminé par ses forces inconscientes. Ça aussi, ça me semble très très discutable, quand même. Pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour une raison morale, notamment. Si vous êtes entièrement déterminé par votre inconscient, comment vous pouvez être responsable pleinement de votre existence ? Non, plus le temps passe, moi je lui accorde de crédit personnellement. D'ailleurs, la psychanalyse est encore très à la mode en France et dans quelques autres pays, mais il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels ce sont d'autres thérapies psychologiques qui ont pris le relais. Hein. Il faut le savoir quand même. Hein. Ce serait l'objet d'une très très longue discussion, ça, la pertinence de la psychanalyse, mais c'est pas grave.